Jean Richepin, le peintre Dieu. Que Jacob van Dechtsweer, le plus vieux, soit un grand peintre, c'est ce qu'il est impossible de ne pas proclamer et de ne pas crier quand on voit son portrait peint par lui-même. Malheureusement pour sa gloire, l'occasion n'en fut donnée qu'à très peu de gens. Et un guignon cruel, tenace, implacable, a voulu que, pendant 2 siècles, parmi ses rares privilégiés, jamais il ne se rencontrât personne pouvant l'affirmer avec l'autorité et le retentissement nécessaires. Ce portrait, en effet, fut légué en 1692 au couvent des provendistes grises de Weitzmuth en Thiérarch par la fille du maître, à charge d'y être conservé sous voile et dévoilé seulement une fois chaque année à la Toussaint pendant la messe des morts. Les nonnes, le curé du pays, desservant la chapelle des provendistes grises, quelques fidèles, faisant par dévotion spéciale les 3 lieues de mauvais chemin qui mènent au couvent, situés dans les bois, voilà donc tout le public, insuffisant comme donneur de renommée, auquel était démontrée depuis 2 siècles, une œuvre par an, l'admirable et magique portrait de Jacob van Dechtsweer, le Vieux. De ses autres tableaux, on en peut voir au musée de Gand, de Valenciennes, à la bibliothèque d'Audenarde et dans plusieurs églises de Belgique. Mais ils n'ont rien de génial. Il sort d'un honnête ouvrier peintre, sachant son métier, sans plus, et comme il y en avait beaucoup alors dans l'école flamande. Il faut être un fin connaisseur, un véritable expert, pour y trouver une touche personnelle, distinguant un peu de celui-ci ou de celui-là. Par exemple, de son neveu, Jacob van Dechtsweer, le jeune, avec qui les plus habiles le confondent souvent. Mais son portrait peint par lui-même, quel chef-d'œuvre unique, quelle incomparable merveille! Magique, oui, réellement magique, ou plutôt surnaturellement magique. Non, les mots ne sont point excessifs, ils ne sont que justes. Et l'on en conviendra sans doute, et l'on comprendra les raisons du lait singulier fait par la fille du maître au couvent des provendistes grises, et l'on avouera que Jacob van Dechtsweer le Vieux ne put pas ne pas être un grand peintre, quand on aura lu l'histoire de son portrait, l'étrange histoire que voici. Depuis de longues années déjà, Jacob van Dechtsweer, ou, ainsi qu'on l'appelait à Weitzmuth en Thiérache, sa ville natale, Maître Jacob, exerçait la profession de peintre et en vivait honorablement et heureusement, faisant tout ce qui concernait son état, portraits, natures mortes, paysages, sujets religieux et historiques, allégories et décorations. Il ne refusait aucune besogne, n'exigeait pas de trop gros prix, était en même temps professeur à l'école municipale des arts et métiers de Weitzmuth en Thiérache, et donc semblait n'avoir rien à désirer, puisqu'il trouvait dans son métier à la fois considération et profit. Ses habitudes, ses allures et sa mine confirmaient pleinement cette apparence. Calme et régulier, consciencieux, travailleur, bon père de famille, dont la maison florissait d'une aimable ménagère de 3 beaux enfants, solide mangeur et buveur à large face épanouie, il menait une existence enviable. Il se levait tôt, déjeunait légèrement pour n'avoir la main libre, s'attelait à sa tâche jusqu'à 3 heures de l'après-midi, et alors dînait copieusement, ayant tout le reste du jour pour digérer à loisir et prendre un repos bien gagné. Il le prenait à l'auberge, en fumant d'innombrables pipettes allumées aux couveux de cendres brésillantes, et en buvant 6 grandes chopes de bière blanche, aigrelette et mousseuse, pendant qu'avec ses amis et ses élèves, il s'entretenait lentement de son art. À 9 heures du soir, il rentrait pour souper légèrement afin d'avoir un sommeil tranquille. Et le lendemain, au réveil, il recommençait à faire exactement tout ce qu'il avait fait hier. Cependant, maître Jacob, malgré son air si heureux, n'était pas heureux au fond de l'âme. Honnête, artiste et passionné de son art, il se jugeait médiocre et en souffrait. Mais personne autour de lui ne pouvait s'en douter. Ses admirateurs, ses amis et ses élèves n'attribuaient qu'à sa modeste bonhomie les aveux qu'il laissait échapper, généralement après la sixième chope, quand il disait des choses de ce genre. « Allô, bonsoir. Voilà encore une journée de perdue. Oh, mais si j'étais sûr de faire un chef-d'œuvre en cessant de vous voir, comme je vous quitterais avec joie pour toujours. Bon, je vais tâcher de rêver que je suis un grand peintre, pour me consoler de n'en être pas un. » Et les quelques ennemis qu'il avait à cause de sa prospérité prenaient là un prétexte à insinuer que sa modestie était fausse et que sa bonhomie cachait une abominable vanité capable de tout pour se satisfaire. Le plus méchant d'entre eux citait, à l'appui de cette fâcheuse opinion, une phrase qui revenait souvent dans les doléances de maître Jacob, phrase pourtant bien inoffensive, et où ses amis, très justement, ne voyaient eux qu'une boutade. « Pour faire un chef-d'œuvre, répétait volontairement maître Jacob, on vendrait son âme au diable. » Et il est bien certain qu'il disait cela sans malice, sans penser qu'on pût le prendre au mot. Comment en douter quand on regardait ses bons yeux d'honnête homme, sa large face épanouie, sa bouche souriante et lipue, où la bière blanche écumait comme du lait aux lèvres d'un innocent qui tête. Sans compter que maître Jacob remplissait très dévotement ses devoirs religieux, ne manquait jamais la messe et communiait à toutes les grandes fêtes. En vérité donc, il fallait avoir l'esprit diabolique soi-même pour imaginer que maître Jacob parla sérieusement de conclure un pacte avec le diable. Et la preuve qu'il n'en parlait pas sérieusement, c'est qu'un jour, son neveu, Jacob van Esweer, le jeune, qui aimait à plaisanter, lui ayant dit « Et si le diable venait vous proposer le marché ?» « Que diable lui répondriez-vous, mon oncle ?»« Eh bien, répliqua gaiement Jacob van Esweer le vieux, qui aimait à rire aussi, je lui répondrai ce que je te réponds quand tu me demandes si tu sais peindre. » Et ce qu'il lui répondait en ce cas, c'était un petit gros mot par lequel les gens de Weizsäcker anti-RH, quoique réclamés comme flamands à l'estime de certains historiens, prouve de reste qu'ils sont bien français. Le soir du Mardi Gras de l'an 1681, un peu avant 9 heures, comme maître Jacob vidait sa cinquième chope et venait précisément de répéter sa phrase favorite en allumant aux cendres du couveux sa 11e pipette, un étranger entra dans l'auberge. Il était connu de personne. Tout le monde, quand on s'en entretint par la suite, fut d'accord pour dire qu'il avait l'air d'un Espagnol. Il portait un loup de revelours cramoisi, un chapeau à large bord par-dessus un bonnet rouge, une vaste et longue cape écarlate lui drapant le corps entier, et des bottes de maroquin, dont l'une, à l'empeigne beaucoup plus ronde, épatée et pleine, que celle de l'autre dénotait visiblement un pied beau. Comme si cet inconnu se trouvait en pays de connaissance, il s'attabla familièrement avec la bande de maître Jacob, se versa une chope de leur peau, et dit au peintre à brûle-pourpoint, « Ce qui vous manque pour faire un chef-d'œuvre, maître Jacob, c'est de savoir peindre les yeux. » Quoique tous eussent fêté outre mesure le Mardi Gras et fussent ainsi indulgents à ce masque qui semblait le fêter aussi, ils n'eurent pas envie de rire. Et maître Jacob, moins que personne. Même à lui, une mortelle pâleur lui décolora soudain le visage, qu'il avait très rouge, pour avoir bu et mangé ce jour-là plus que de coutume. Et il lui sembla que le cœur lui manquait dans la poitrine, tant les paroles de l'étranger le frappaient juste à la plaie avivée de sa secrète souffrance. « Mais vous avez raison, répondit-il avec une honteuse humilité. Vous avez grandement raison, messire. Je ne sais pas peindre les yeux. Vous plaît-il, reprit l'étranger, que je vous apprenne à les peindre ? Oh oui, oui, certes, s'écria maître Jacob, un peu terrifié, mais en même temps enthousiasmé d'une telle proposition. Eh bien, fit l'homme, venez avec moi. On voulut empêcher maître Jacob de le suivre. Mais lui, si pacifique à l'ordinaire, il jura en blasphémant le nom du Seigneur qu'il casserait la tête à qui ferait seulement mine de le retenir. Et il sortit dans la nuit avec l'étranger. Le lendemain, ses amis curieux l'interrogeant sur l'aventure. « Bon, fit-il, oh, nous avions tous la tête à l'envers à cause du mardi gras. Moi aussi, l'homme aussi, je l'ai perdu dans la foule. C'était un mauvais plaisant, n'en parlons plus. » Mais on vit bientôt qu'il ne cessait d'y penser et qu'il avait dû se passer entre l'homme et lui quelque chose dont sa vie demeurait bouleversée de fond en comble. Il avait perdu sa bonne mine. Il ne venait plus tous les soirs à l'auberge. Quand il y venait, il fumait et buvait à peine. Et au bout d'un certain temps, il n'y vint plus du tout. Il ne sortait jamais de chez lui maintenant. Il se tenait clos dans son atelier. Sa femme et ses enfants eux-mêmes n'y étaient point reçus. Il poussa enfin la folie de la réclusion jusqu'à refuser d'aller entendre un dimanche la messe. Depuis ce jour, il ne fréquenta plus l'église. Il ne fit pas, cet an-là, ses Pâques. Le curé, qui était de ses vieux amis, vint le voir, fut obligé de forcer presque la porte pour être introduit dans l'atelier, et lui demanda doucement les raisons de cette conduite déraisonnable. « Vous les saurez, répondit maître Jacob, lorsque j'aurai achevé mon chef-d'œuvre. « Quel est ce chef-d'œuvre ? Interrogea le prêtre. « Ce chef-d'œuvre auquel vous sacrifiez votre salut ?»« Je ne pense pas y sacrifier mon salut, répliqua maître Jacob. J'ai pris mes précautions à cet égard. Faites attention, reprit le prêtre. Vous me semblez vouloir ruser avec le malin. Il est le malin. C'est lui qui vous trompera. Vous n'en serez pas le bon marchand. Tristement et orgueilleusement, maître Jacob repartit. Tant pis alors, mais au moins, aurais-je été une fois ma vie, le bon peintre. Un mois plus tard, on trouva maître Jacob mort de mort subite devant le chef-d'œuvre achevé. C'était son portrait, peint par lui-même, le merveilleux, magique et surnaturel portrait que légua en 1692 au couvent des Provendistes grises de Weidemeux en Thierrach, l'abbesse Claire van Steinberg, fille du maître. Et au coin du tableau était fixé un feuillet de parchemin où maître Jacob avait écrit ces lignes. « Le diable m'a enseigné le secret de peindre les yeux. » Ce secret consiste à soutirer la vie au modèle qu'on veut représenter et à fixer cette vie sur la toile. Ce faisant, on tue lentement les gens dont on fait le portrait. Je n'ai voulu tuer personne que moi-même. Et pouvant conquérir le génie en devenant homicide, j'ai préféré n'être que suicidé. J'espère la miséricorde divine pour que cette préférence me soit comptée aux rémissions de mon crime. Je supplie qu'on châtie mon sacrilège orgueil en me refusant la gloire posthume à laquelle a droit mon chef-d'œuvre. Il me suffit de savoir que ce chef-d'œuvre, je l'ai fait. Je recommande mon âme aux prières dans le cas où le malin ne me laisserait pas le temps. La mort avait frappé le pauvre homme en train d'écrire. Et voilà pourquoi, tous les ans, au couvent des provendistes grises de Weitmouth en Thierrache, le jour de la Toussaint, on fait assister à la messe des morts, dévoiler pendant une heure le merveilleux, magique et surnaturel portrait du grand artiste inconnu, à qui est restitué ici, pour la première fois, le nom tout entier dont il signa son unique chef-d'œuvre, Maître Jacob van Nesweyr, le peintre Dieu.